aujourd'hui la masterclass d'Étienne Klein avec Nicolas Martin.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus à cette nouvelle masterclass de France Culture, masterclass un peu particulière hein, parce que si nul ne lui contestera un statut d'artiste éclairé, il n'en est pas moins avant tout un scientifique, physicien de formation et de profession, mais également docteur en philosophie des sciences et, il faut le préciser, amoureux de la montagne. C'est une voix bien connue hein, des auditeurs de France Culture. Producteur de la conversation scientifique chaque samedi de 16h à 17h, émission dans laquelle il ne manque pas d'interroger la vocation des chercheurs et des intellectuels qu'il reçoit. C'est précisément ce que nous allons faire avec lui au cours de cette heure de masterclass. Bonsoir Étienne Klein.
Bonsoir Nicolas Martin.
Alors puisque ces masterclass hein, interrogent avant tout le travail de création, la naissance et l'organisation de la démarche artistique, est-ce que vous pensez, pour commencer, que l'on puisse interroger un scientifique de la même manière que l'on interroge un artiste?
Alors moi je pense que la science et l'art sont quand même des choses et des démarches extrêmement différentes, notamment dans la façon de poser les questions et puis dans la façon d'y répondre. Mais une fois que ces deux disciplines ou ces deux démarches ont été vraiment séparées, alors on peut les faire dialoguer. Mais je crois pas à une sorte de syncrétisme par lequel, au bout du compte, les artistes et les scientifiques tomberaient d'accord. Il y a souvent cette idée que c'est, en fait, ils escaladent la même montagne, par des faces différentes, et à la fin, le sommet atteint est le même. Je crois pas trop à ça. Par contre, et on voit d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de projets science et art, comme on dit, j'étais très sceptique au départ, et en fait, quand on voit les réalisations, les dialogues qui s'installent, qui s'instaurent, on voit de très belles choses apparaître, que les scientifiques seuls n'auraient pas pu élaborer et que les artistes n'auraient peut-être pas eu l'idée d'explorer s'il n'y avait pas eu justement ce contact.
Mais je pense, par exemple, vous avez reçu un certain nombre de mathématiciens. On entend beaucoup, par exemple, dans la mathématique, dire qu'il y a une part d'esprit artistique, qu'il faut de l'improvisation, comme on peut improviser en musique. Est-ce que vous pensez tout de même qu'il y a des points de jonction ?
Mais il me semble quand même qu'en mathématiques, il y a des contraintes incroyables. Enfin, on peut avoir de l'imagination, etc. Mais très vite, il y a des contraintes formelles ou de rigueur ou de logique qui font que l'imagination est très vite cadenassée, quoi. Donc, je prendrais plutôt l'image d'une embarcation avec une voile et une dérive. C'est-à-dire, la voile, c'est l'imagination qui permet d'avancer. Et la dérive, c'est ce qui empêche de dériver.
Est-ce que vous pensez que la question de la vocation que l'on pose souvent aux artistes se pose de la même manière pour un scientifique, pour le scientifique que vous êtes? Est-ce que ça a un sens, la notion de vocation?
Alors pour moi, la vocation, si vous voulez, c'est souvent quelque chose qui est déterminé assez tôt par le talent. On imagine que la vocation qu'on a, c'est une vocation qui est dans la continuité de ses talents initiaux. Or, je suis pas sûr que les vraies vocations soient annoncées par des talents particuliers. On peut avoir des vocations tardives qui ne sont pas le résultat d'une expression de talent initial. Et je trouve que l'école, parfois, nous pousse vers nos talents sans toujours voir quelle est la vraie vocation. Moi, je vois ça avec des étudiants qui sont brillants, ils ont des talents en mathématiques, en physique, ils font une grande école d'ingénieurs. Et puis certains d'entre eux se rendent compte que c'est pas du tout leur vocation. Ils se rendent compte soit à l'école, soit bien plus tard, ils changent de métier. Et ça veut dire qu'ils avaient au fond d'eux une vraie vocation qui était cachée, non assumée. Et puis après avoir suivi ses talents, ils se rendent compte que c'est là qu'ils doivent aller et ils font des transitions de phase dans leur propre parcours. Il y a aussi des grands artistes hein, qui ont eu des vocations tardives. Kandinsky et quelques autres, certaines d'ailleurs inspirées par la découverte de la physique. La physique quantique a été une crise dans la représentation et qui a fait que des artistes ont changé leur fusil d'épaule ou bien d'autres sont devenus artistes pour essayer de rendre justice à cette nouvelle physique. Donc c'est pas si simple.
Est-ce que vous vous souvenez, est-ce qu'on peut parler de, ou est-ce que c'est un mythe, ce moment fondateur, du moment où, je le rappelle, vous avez fait vos études à Paris, au lycée Louis-le-Grand, puis à l'école centrale, le moment où la physique a fait irruption dans votre vie, est-ce qu'il y a un point précis, est-ce que c'est quelque chose de diffus, est-ce qu'il y a un moment donné où vous le réalisez, le prenez conscience avec un regard rétrospectif?
Alors, il y a eu trois moments, en fait. Le premier, c'est en classe de première, la lecture du discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes de Rousseau, où je découvrais, après avoir lu des pièces de théâtre obligatoires au lycée, Molière, etc. J'aimais bien le théâtre, mais pas trop. Il fallait jouer devant tout le monde, j'étais timide. Il fallait faire des déclarations d'amour à des jeunes filles qu'on connaissait à peine. C'était vraiment une épreuve. Alors que Rousseau, c'est la découverte pour moi de l'argumentation. L'argumentation littéraire ou philosophique. Et ça m'avait vraiment bouleversé. Ensuite, il y a eu, alors que j'étais élève dans une école d'ingénieurs, un stage d'été au CERN, que j'avais choisi parce qu'il était bien rémunéré.
Et, donc pas par vocation.
Et il y a deux choses qui m'ont tout de suite plu. La première, c'est que on était plusieurs dizaines d'étudiants européens. On a visité la machine souterraine qui s'appelait le SPS à l'époque, une machine de 6 km de circonférence, bien petite par rapport aux machines actuelles. On descend par un gros ascenseur, pour un mont de charge en fait. On visite la machine et puis on remonte. Enfin, on se remet dans l'ascenseur pour accéder à la surface. Et puis au moment où les portes allaient se refermer, un gros physicien entre. Et à ce moment-là, l'alerte se met à sonner. On était en surpoids. Et donc tous les regards se tournent vers lui pour essayer de le pousser dehors, parce qu'il était le dernier entré. Et le gars, qui était un Norvégien, nous a dit « When I say yes, then press ». Et le type a sauté en l'air. Il a dit « yes ». On a appuyé sur un bouton et tac, le truc est parti, on a pu décoller. Et là, je me suis dit, ces gens sont quand même trop forts. Je veux leur ressembler. Et ensuite, il y a eu un exposé sur ce qu'on faisait avec les collisionneurs. C'était pas encore des collisionneurs, mais presque. Et un physicien nous avait expliqué que, en fait, un collisionneur de particules, ça réchauffe le vide. C'est-à-dire le vide quantique, il est plein de particules virtuelles qui n'ont pas assez d'énergie pour exister vraiment, qui sont là en hibernation. Et en fait, les collisions qu'on fait déposent de l'énergie dans le vide, et ces particules qui manquaient d'énergie en acquièrent, deviennent réelles, sortent du vide et on les détecte. Or, j'aimais beaucoup la philosophie à l'époque, et je me souvenais d'une lettre que Blaise Pascal avait écrite au Père Noël, en 1637. Alors, pas le Père Noël des sapins, le révérend Père Noël, qui était un jésuite, qui avait écrit un livre intitulé « Le plein du vide ». Il croyait pas à l'existence du vide, alors que Blaise Pascal croyait à l'existence du vide. Et Blaise Pascal lui a écrit une lettre dans laquelle il dit « Il y a autant de différence entre le néant et l'espace vide qu'entre l'espace vide et les objets matériels. » Et il termine en disant « Le vide tient le milieu entre le néant et la matière. » Phrase vraiment géniale. Et en fait, le vide quantique a exactement le statut que Blaise Pascal accordait au vide tout court. Et là, ça a été un point de rapprochement qui m'a interpellé. C'est des choses dont on ne m'avait jamais parlé pendant mes études. Et je découvrais un nouveau monde. Et ensuite, le dernier événement, ça a été, alors que j'étais à l'hôpital, un ami m'apporte un livre qui s'intitule « À la recherche du réel ». Un livre écrit par Bernard d'Espagna en 1976. Et c'est un livre qui explore les conséquences de la physique quantique. Et Bernard d'Espagna est un des rares à l'époque à avoir prédit que les expériences qui auraient lieu quelques années plus tard démontreraient ce qu'on appelle la non-séparabilité quantique, les phénomènes d'intrication qui sont aujourd'hui très très bien connus et très banals. Mais ça m'avait interpellé, comme on dit aujourd'hui, par le fait que des résultats de physique importants venaient changer la façon de répondre philosophiquement à des questions philosophiques. Et c'est cette chose-là qui m'a amené sur les rails dont vous avez parlé.
Et ça veut dire que dès le départ, hein, on l'a dit, vous êtes physicien et philosophe, c'est-à-dire que c'est dès le début de votre carrière professionnelle, on l'entend dans ce que vous venez de nous dire, il y a un dialogue qui s'instaure entre les deux disciplines tout de suite, et c'est un dialogue que vous avez cherché à poursuivre.
En fait, si je devais un peu corriger ce que vous dites, je dirais pas que je suis physicien et philosophe, mais je suis entre les deux. Je suis dans l'antre, c'est-à-dire entre au sens de François Julien, c'est-à-dire on se met dans une position où on regarde les deux sans les hiérarchiser. Parce que souvent quand on sépare les disciplines, il faut les séparer parce que la physique c'est pas la même chose que la philosophie, il faut les séparer. Mais une fois qu'on les a séparés, on les hiérarchise et on les autonomise. Or, quand on se met entre et qu'on maintient entre elles une sorte de tension, on les maintient en vis-à-vis, et on regarde les endroits où ce qu'apporte l'une pourrait éclairer ce que fait l'autre et réciproquement. C'est plutôt dans cette position que je suis, plutôt que d'être dans une position de cumul de la physique et de la philosophie, qui est une position impossible à mon avis.
C'est intéressant. Est-ce que cette position intermédiaire que vous décrivez, elle est certainement rendue possible par la physique? Est-ce qu'elle, la physique, on décrit souvent comme la science reine, hein, par rapport aux autres, puisque c'est la science qui explique le réel, qui explique le cosmos, qui est à la racine de notre existence, l'existence de la matière. Est-ce que vous diriez que c'est pour ça, être physicien, c'est justement précisément être dans cette position-là d'interroger. Il faut être philosophe quand on est physicien.
Bon, il faut pas, parce qu'il y en a beaucoup de physiciens qui ne sont pas philosophes, donc c'est pas une obligation. Mais il me semble qu'il y a dans la physique quelque chose d'assez particulier, qui est que depuis Galilée, les physiciens écrivent des équations. Depuis Newton, surtout en fait, et ces équations ne sont pas simplement un langage qui servirait à dire de façon condensée le monde tel qu'on l'observe, c'est un langage qui a un pouvoir prédictif et qui agit même parfois comme un treuil ontologique, c'est-à-dire qu'on peut prédire l'existence de nouvelles sortes d'objets physiques. Récemment, les ondes gravitationnelles ont été détectées, elles avaient été prédites par Einstein en 1916, le boson de Higgs en 2012, prédit en 1964, et quand j'étais étudiant au CERN, c'était en 81, et quelques années plus tard, la machine dont j'ai parlé a permis de découvrir ce qu'on appelle les bosons intermédiaires, qui avaient été prédits comme particules quelques années plus tôt. Et c'est quand même intéressant d'interroger une discipline qui est capable de prédire l'existence d'objets physiques qu'on n'a jamais vus, avant que le fait de les prédire permette de les détecter. Parce que finalement, on les détecte parce qu'on les reconnaît. Et on les reconnaît parce qu'on les connaît. Et on les connaît grâce aux équations.
C'est immédiatement la physique des particules que vous venez d'évoquer qui vous a intéressé, qui vous a attiré. Pourquoi ?
Oui, c'est... D'abord, c'est des objets qu'on ne voit pas, et on peut les décrire. On peut décrire leur comportement, les interactions qu'elles subissent. Ce qui veut dire que l'intellect continue de fonctionner quand l'intuition est en panne. On peut continuer à avoir des idées et même des images quand l'intuition a fait faillite. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez fascinant. Ça veut dire qu'on a là un langage qui prolonge la vision ordinaire dans le champ de l'invisible. Et c'est quand même, c'est à la fois mystérieux et très bouleversant, cette impression qu'on a de, dans certains cas en tout cas, de toucher le réel. Je dis pas de décrire le réel. Je suis pas sûr que la physique décrive le réel, parce que le mot réel est un mot un peu chargé, disons. Mais il y a des occasions où on entre en contact avec quelque chose qui a à voir avec le réel. Oui, je suis assez prudent. Mais c'est pas tous les jours qu'on fait ça. C'est pas tous les jours qu'on fait ça dans la vie courante. Et je me souviens que quand les gens ont découvert le boson de Higgs, en voyant des signaux s'accumuler dans les courbes qui permettaient de synthétiser les données, il y a eu une énorme émotion. L'émotion, évidemment, due aux années de recherche préalables, aux nuits blanches, etc. Mais aussi l'émotion d'entrer en contact avec quelque chose de réel qui nous est complètement imperceptible dans la vie courante. En fait, on est en contact avec le vide quantique. Puisque le boson de Higgs, on l'a sorti du vide quantique par le mécanisme que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est vraiment des choses qui méritent qu'on interroge l'efficacité opératoire de cette physique. Et on peut pas dire c'est à chaque fois de la chance. C'est un coup de chance à chaque fois que les résultats des calculs coïncident avec les mesures des expériences. Si ça marche aussi bien depuis très longtemps, la physique quantique, elle a bientôt un siècle. Évidemment, il y a eu des milliards de découvertes depuis, mais les fondements de la théorie sont restés les mêmes. La relativité générale d'Einstein pour la gravitation, c'est la même chose. Donc, on vit depuis des décennies avec beaucoup de découvertes, sans qu'il y ait vraiment de révolution. Ce qui veut dire que ces révolutions du début du XXe siècle ont ouvert des portes qui ont donné accès à un monde tout à fait nouveau, sans que rien dans ce monde ne remette en cause les principes de ces théories initiales. Et c'est ça qui fait qu'on doit leur accorder de l'attention, on doit essayer de deviner ce que diraient les équations de ces théories si elles pouvaient parler, puisqu'elles ont l'air de toucher quelque chose du réel. Et donc, si on arrive à dire ce qu'elles diraient si elles pouvaient parler, Alors peut-être qu'on a des enseignements à en tirer qui pourraient aussi changer nos façons de penser. Et c'est cela qui fait qu'on est en connexion, non pas avec la philosophie tout entière, mais avec certaines questions de la philosophie sur le temps, la causalité, l'espace, la matière, etc.
Est-ce que vous pensez, pour aller dans le, pour poursuivre ce que vous venez de nous dire, est-ce que vous pensez à ce moment-là que la philosophie est un outil supplémentaire à la disposition du scientifique que vous êtes ?
Alors, outil, je pense que ça ferait hurler les philosophes. Non, c'est pas un outil, c'est simplement une sorte de souci de cohérence. Prenez la question du temps. Il y a des systèmes philosophiques très sophistiqués, très élaborés, très élégants à propos du temps. Saint-Augustin, Kant, Husserl, Leibniz, Heidegger et beaucoup d'autres. Et donc on pourrait dire finalement ces systèmes nous permettent de penser le temps. Mais il y a deux difficultés qui apparaissent. La première, c'est que les philosophes sont pas tous d'accord. Donc il faudra faire un choix. En fonction de quels critères ? L'élégance de la proposition, le renom de l'auteur, la cohérence des idées. Et puis, Newton, Einstein et quelques autres ont aussi élaboré des théories qui changent notre façon de comprendre le temps, notamment sa relation avec l'espace et la matière. Alors, à un moment, on doit se dire, mais finalement, est-ce que Heidegger ou Kant, quand ils parlent du temps, parlent de la même chose qu'Einstein ? Oui ou non ? Si la réponse est oui, est-ce qu'ils disent la même chose ? Oui ou non ? Si la réponse est non, à qui accorder du crédit ? Et là, on tombe sur un domaine qui est justement l'antre de la physique et de la philosophie. Et on doit se poser la question, qui est légitime à parler du temps ? Est-ce qu'on peut se contenter de Heidegger ? Est-ce qu'on peut se contenter d'Einstein ? Et si on le fait, alors il faut être capable d'expliquer pourquoi on a fait un tel choix. À mon avis, c'est pas si simple parce que il y a des problèmes de sémantique qui arrivent assez vite. Et donc, il faut interroger ce qu'on met derrière ce mot temps et essayer de voir si on peut trouver des correspondances entre les différentes disciplines qui tentent de le comprendre et de l'appréhender.
On peut dire tout de même que si on regarde votre parcours, en commençant par la physique des particules, puis la physique quantique, pour arriver aux interrogations qui sont les vôtres aujourd'hui autour du temps, qu'on est dans une sorte de parcours d'essentialisation scientifique et philosophique.
Bah, disons que je suis content de participer à votre émission à un âge avancé. Parce que il y a 10 ans, ou même 15 ans, j'aurais pas été capable de dire exactement ce que je fais. Et en réalité, ce que je fais, c'est assez simple. C'est d'essayer d'expliciter ce que Merleau-Ponty appelait dans son cours au Collège de France les découvertes philosophiques négatives faites par les physiciens. Voilà. Et évidemment, quand on dit négatif, ça veut dire que la physique n'a pas vocation à coloniser la philosophie, mais simplement autour de certaines questions très particulières, d'apporter des éléments qui doivent être prises en compte et qui peuvent ouvrir des nouveaux chemins de pensée pour les philosophes sur le temps ou d'autres questions qu'on a rapidement évoquées. Et ça amène assez rapidement à la question du langage, parce que le langage naturel de la physique, c'est pas le langage ordinaire, évidemment, c'est le langage des équations, et ces équations ne sont pas déjà dites dans le langage ordinaire. Et donc, si on veut dire avec des mots ce que dit la physique, eh bien, on doit, en quelque sorte, creuser une langue étrangère au sein même du langage pour créer des espaces dans lesquels on va pouvoir dire les messages originaux qui viennent de la physique. Par exemple, le temps, c'est un mot d'abord qui est inséré dans des phrases. Et si vous lisez, faites l'expérience suivante, vous lisez le livre 11 des Confessions de Saint-Augustin sur le temps. C'est un livre qui a été écrit il y a 16 siècles. Et si vous le lisez aujourd'hui, eh bien, vous verrez que vous comprenez exactement ce que dit Saint-Augustin. Alors qu'entre Saint-Augustin et nous, il y a eu Galilée, Newton, Einstein et beaucoup d'autres qui ont changé notre façon de comprendre le temps. Et donc, si notre façon de dire le temps avait intégré les nouveautés dans la façon de le comprendre, alors on ne dirait plus du tout comme le disait Saint-Augustin. Et donc, on ne pourrait plus comprendre Saint-Augustin. Or, on le comprend très bien, pour une raison très simple, c'est que nous parlons comme lui. Notre façon de dire le temps n'a pas changé depuis des siècles, et elle charrie avec elle des a priori clandestins qui peut-être déterminent notre façon de le penser.
C'est intéressant parce que vous revenez et vous tournez autour de quelque chose que j'aimerais vous faire expliciter un peu autour du langage. Hein. Vous parlez de faire parler des équations de physique, de les écouter, d'écouter ce qu'elles auraient à nous raconter. Nous avions eu dans les couloirs de cette belle maison qu'est France Culture une conversation autour même de la notion d'équation, de mathématiques, de ce langage mathématique, de ce langage naturel ou non, de cette déraisonnable efficacité d'un langage codifié par l'homme pour appréhender le réel. Alors si tant est qu'on puisse dire le réel, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en train de tendre aussi vers une forme de sémiotique ou d'interrogation sémiotique à rajouter à votre panel d'analyse justement de ce réel?
Ben, je crois, parce que par exemple il y a 10 ans je vous aurais dit, à mon avis, ceux qui sont légitimes à parler du temps, c'est les physiciens. Il y a une telle efficacité opératoire de la physique que la physique ne pourrait pas avoir cette efficacité si elle n'avait pas saisi à propos du temps des choses essentielles. Le boson de Higgs, c'est une découverte qui a à voir avec le temps, puisque ça donne une masse aux particules élémentaires, et d'après Einstein, pour qu'une particule ait un temps propre, il faut qu'elle ait une masse non nulle. Donc ça a à voir avec le temps. Les ondes gravitationnelles aussi, puisqu'elles ont été prédites par Einstein à l'aide de sa théorie de la gravitation qui remanie complètement l'espace-temps de la physique. Bon. Donc ça a à voir avec le temps. Et donc j'aurais dit, bah, finalement, c'est les équations qui sont la base de connaissance à partir de laquelle on peut faire une critique du langage. Mais il y a quelque temps, peu de temps, en fait, moins d'un an, je me suis posé la question de savoir pourquoi Newton, dans les Principia, le livre qu'il écrit à la fin du XVIIe siècle, pourquoi il décide d'appeler temps le paramètre T de ses équations. Et ben, quand on lit les Principia, on n'a pas la réponse. Ça veut dire que lui a reconnu dans ce paramètre ce qu'on appelle le temps, alors même que ce paramètre n'a aucune des propriétés qu'on attribue d'ordinaire au temps. Par exemple, le temps de Newton, il est complètement indépendant de ce qui se passe dans le temps. Or, nous, on attribue au temps des qualificatifs. On dit qu'il y a un temps biologique, un temps psychologique, un temps astrophysique, etc. On fait comme s'il y avait autant de temps différents qu'il y a de temporalités différentes. Or, Newton dit non, il y a un temps dans lequel il y a des temporalités différentes. De même, le temps de Newton, il est complètement homogène, il ne change pas au cours du temps sa façon d'être le temps, et donc il est la seule chose dans l'univers qui ne change pas. Et pourtant, nous, on identifie temps et changement. Donc je me suis dit, mais pourquoi il l'a appelé temps alors que ce paramètre ne ressemble pas au temps? Et la vérité, enfin ce que j'ai compris comme étant la vérité, c'est qu'il ne l'explique pas. Et donc il aurait pu appeler ce paramètre autrement. Et s'il l'avait appelé autrement, eh ben on n'interrogerait pas les physiciens sur le temps, mais sur ce paramètre autrement nommé qu'il aurait baptisé truc ou je sais pas quoi. Et donc il y a une sorte d'arbitraire sémantique là. Et aujourd'hui, d'ailleurs vous les recevez dans votre mission, parfois il y a des physiciens qui expliquent que le temps n'existe pas. Ben, très bien, le temps n'existe pas. Mais pour dire que le temps n'existe pas, il faut très précisément dire ce qu'il est, pour être certain qu'il n'a pas une contrepartie, sous une forme ou une autre, dans les théories dont on parle. Donc le fait que le temps newtonien n'existe pas, c'est vrai, il n'existe pas parce qu'il a été tué dans d'atroces souffrances par la théorie de la relativité. Donc le temps newtonien n'existe pas. De là à dire que l'idée de temps s'évanouit dans l'opération, il y a un pas qu'on ne peut pas franchir aussi facilement. Et donc, dans toutes ces discussions, on est pris par des problèmes de sémantique. Par exemple, si vous élaborez une théorie nouvelle qui unifie la gravitation et la physique quantique, et vous avez des paramètres ou des variables dans votre formalisme à l'ébauche qui représentent une variable qui est discontinue, donc une variable qui passe de temps en temps, bon. Est-ce que vous avez le droit de l'appeler le temps? Ben, si vous pensez que le temps peut être discontinu, vous avez ce droit-là. Si vous pensez au contraire qu'il est dans la nature du temps d'être continu, cette variable ne peut pas être le temps. Et donc, vous voyez que les questions de langage viennent contaminer la façon dont nous pensons le contenu théorique des formalismes de la physique. C'est pour ça que les questions de langage me prennent de plus en plus et me tracassent de plus en plus.
Mais puisque l'on parle de langage et que c'est une masterclass, je vais aller vous chercher, gratter un peu justement sur cette notion de transmission par le langage, hein, qui est un autre pan important de votre carrière, tant par les écrits, par les chroniques que vous avez fait pendant longtemps pour le magazine La Recherche, et puis ici à France Culture jusqu'à votre émission La Conversation Scientifique. Dans vos entretiens, Étienne Klein, avec les chercheurs, les scientifiques, les philosophes, les intellectuels, si tant est qu'on puisse qualifier ces gens-là d'intellectuels. Qu'est-ce que vous cherchez, vous? Vous êtes à la recherche de quoi? Parce que plus qu'un entretien, plus qu'un questionnement, on est plus souvent, me semble-t-il, dans du dialogue.
Alors, il y a une phase dans ma vie où j'étais vraiment dans la transmission. C'est-à-dire, j'avais rencontré Bernard d'Espagnac, ce monsieur incroyable d'ailleurs, qui avait écrit ce livre. Quelques années plus tard, je l'ai rencontré, on a travaillé ensemble, et un jour, il m'avait dit si je devais recommencer ma vie, je serais chauffeur de taxi. J'avais été quand même étonné, et je lui ai demandé pourquoi. Il me disait, mais les chauffeurs de taxi, quand ils sont à une station et qu'ils attendent des clients, ils ont tout le temps pour réfléchir. Et donc, il n'avait pas une connaissance ou une conscience très grande de la vie réelle des chauffeurs de taxi. Il était un peu coupé du réel, même si le réel était son sujet. Mais lui pensait que les questions qui le travaillaient, lui, la question de la nature du réel, de ce qu'on peut en dire, de ce qu'on peut en connaître, étaient des questions qui germaient dans l'esprit de tout le monde. Et moi, j'étais bien obligé de lui dire, mais non, tout le monde ne connaît pas la mécanique quantique. Et tout le monde ne connaît pas les questions qui vous intéressent. Et donc, moi, je pensais que il fallait transmettre ses connaissances de façon assez directe, assez linéaire. On sait, on transmet à ceux qui ne savent pas. Et à mesure que je rencontrais des publics, je me rendais compte à quel point c'était difficile, combien il y avait de malentendus, d'incompréhensions, de dévoiements parfois à cause du langage qui était pas assez précis. Et ça a été une assez grande partie de ma vie, donc d'essayer de transmettre des connaissances d'une façon qui soit non pas simple, mais claire. Parce que la clarification, c'est toujours un travail. La simplification, on coupe ce qui dépasse, on coupe ce qui n'est pas simple, et on a l'impression d'avoir transmis quelque chose. Mais je pense que la simplicité dans les discours, elle transporte avec elle beaucoup trop de malentendus, et ensuite ils sont très difficiles à défaire dès lors qu'ils ont été installés. Mais la clarification, en fait, c'est ça qui m'intéresse. Clarifier. Et c'est un gros travail. Et donc, il y a eu cette période de transmission. Et maintenant, dans l'émission La Conversation Scientifique, c'est plutôt moi qui apprends. C'est une conversation, hein, c'est pas une interview. C'est une conversation, pas forcément sur la science. Ce qui est important, c'est que les questions soient posées par un scientifique. Voilà, ça peut être un artiste, ça peut être un philosophe, une philosophe, un écrivain, un alpiniste, peu importe. C'est le mode de questionnement qui est un peu original, et j'essaie plutôt de faire parler ces gens que de transmettre, pour le coup, des connaissances.
Donc pas de position de maïoticien, vraiment. Vous n'êtes pas là pour faire accoucher quelqu'un d'un savoir, pour pas de position de vulgarisateur non plus. On est dans autre chose, dans une autre proposition.
Si, il y a quand même de la vulgarisation, toujours. Il y a un souci de la transmission. Mais en arrière-fond, il y a toujours la question du langage. Parce que je pense que la façon de dire ce qu'on sait, c'est déjà une question éthique. On dit souvent l'éthique, les questions éthiques autour de la science, ça se passe au niveau des applications. Est-ce qu'on doit faire des centrales nucléaires? Est-ce qu'on doit faire des bombes atomiques? Est-ce qu'on doit faire des nanosciences? Est-ce qu'on doit faire de l'intelligence artificielle, etc. Mais en fait, la façon de dire, c'est déjà éthique. Parce que si on dit mal les choses, alors on va conduire les gens à mal les penser. Je vous donne un exemple. Dans les livres de philosophie terminale, dans beaucoup d'entre eux, on parle un peu de mécanique quantique, et on dit cette phrase bien connue: la mécanique quantique démontre que on ne peut pas connaître avec une précision arbitraire la vitesse et la position d'une particule. Voilà une phrase qu'on répète depuis des décennies. Sous-entendu, une particule a une vitesse et une position bien déterminées. Mais la méchante mécanique quantique nous empêche de les connaître. Alors que la physique quantique dit tout simplement qu'une particule, un corpuscule avec une vitesse et une position bien déterminées, ça n'existe pas. Et donc si on ne peut pas les mesurer, c'est non pas parce qu'elles sont mal définies, mais c'est parce que ce sont des propriétés que ne possèdent pas les objets quantiques. Et vous voyez que le fait de mal dire ce principe a conduit à ce qu'on interprète la mécanique quantique comme une limitation de notre pouvoir de connaître. Alors qu'elle ne fait que dire, en l'occurrence, que les concepts de la physique classique n'existent pas dans le formalisme quantique. On a changé de monde, on a changé d'ontologie. Mais plutôt que de dire cela, on a préféré montrer ou faire croire que c'était non pas une révolution, mais une évolution. Autrement dit, ce sont les mêmes objets qu'avant, les corpuscules, mais on peut moins bien les connaître qu'avant, ce qui est un comble.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans ces conversations, dans ces entretiens, Étienne Klein? Qu'est-ce que vous cherchez à circonscrire dans la pensée de votre interlocuteur?
Alors voilà une question que je ne me suis jamais posée. Ça dépend des invités. Parfois j'invite. Au début j'étais un peu intimidé, donc j'invitais des gens pour leur poser des questions dont je connaissais les réponses. Voilà. Donc des physiciens. Et puis après j'ai un peu gagné en audace. Et j'invite des gens qui sont pas physiciens, des climatologues, des philosophes, des historiens, des romanciers, etc. Et j'essaie de, bon, je l'ai dit, d'apprendre des choses dans ce qu'ils me disent, mais aussi de tourner autour de leur rapport à la science. Parce que finalement, la science, directement ou indirectement, ça nous concerne tous. Ne serait-ce que par la technologie. Quel rapport ont-ils avec cela? Et montrer que, par une forme de questionnement, de conversation amicale et bienveillante. Il n'y a jamais d'agressivité dans les émissions. C'est toujours bienveillant d'essayer de voir si dans ce qui est dit là, il n'y a pas matière à penser pour l'auditeur. Pour l'auditeur. Vous le savez bien parce que vous faites un peu la même chose dans la méthode scientifique. Mais quand on discute avec quelqu'un, il peut arriver, si on n'a pas trop préparé l'entretien, si on n'a pas numéroté les questions, il peut arriver qu'apparaissent des sujets sur lesquels on peut rebondir et qui étaient complètement impossibles à prévoir. Autrement dit, il y a une forme de contrainte dans l'entretien qui peut engendrer de la nouveauté. Et c'est en fait ça que je recherche, sans vous garantir que je l'atteins à tous les coups. C'est même des petits moments de radio magique quand ça se produit. Donc c'est pas tous les jours.
Est-ce que, du coup, je vais interroger, puisque vous me tendez la perche, je vais interroger la façon dont vous préparez ces entretiens, justement. Ça veut dire, c'est de l'immersion, c'est vous écrivez énormément, vous laissez porter par le fil de la discussion, vous avez un filet de sécurité, vous n'en avez pas. Comment les choses ont évolué, Étienne Klein?
Bah, au début, moi, j'étais débutant, J'écrivais beaucoup, je passais une nuit blanche, je lisais un livre, je prenais des notes, je rédigeais presque toutes les questions. Et puis, c'est pas bon, parce que c'est pas une conversation. Et donc, plus le temps passe, et je dis pas que je prépare moins, c'est pas vrai, mais je rédige moins, et j'essaie d'improviser davantage. Mais c'est un exercice difficile, parce qu'il faut écouter avec beaucoup d'attention ce qui est dit, et si la personne invitée s'interrompt brutalement, il faut avoir quelque chose à dire. Et donc, il faut préparer le truc d'après, en même temps qu'on est concentré dans le présent. Et ça, c'est quelque chose d'assez difficile.
Cette notion de dialogue, elle revient, on l'a dit, évidemment, dans la conversation scientifique, dans les dialogues entre la physique et la philosophie. C'est d'ailleurs ce que vous avez cherché à instaurer, et vous allez me préciser si je me trompe ou non, quand vous avez fondé en 2007 le laboratoire de recherche sur la science de la matière au CEA, c'était avec l'intention de créer précisément, de pousser les physiciens à être plus philosophes.
Oui, enfin, en tout cas, certains d'entre eux, parce que j'avais à peu près compris ce que je vous ai dit, c'est que c'est ça que je voulais faire. Et le laboratoire, c'était pour le faire de façon plus collective, donc avec plus de moyens, plus de personnes, et pouvoir explorer des questions plus diverses, notamment des questions éthiques, mais des questions liées à la physique quantique également, liées à la question du temps, liées aux grands problèmes de la cosmologie, la matière noire, l'énergie noire. Il y a quand même des choses intéressantes qui se passent là. Et ce laboratoire qui s'appelle le LARCIM, il fonctionne plutôt bien. Il y a vraiment du grain à moudre.
Toute référence étant totalement
fortuite. Ah oui, excuse-moi, c'était penant.
Évidemment.
du grain à moudre et de l'esprit d'ouverture.
Et je vais poursuivre.
Et de la méthode scientifique.
Et de la méthode, évidemment, et toujours. Que serait-on sans un peu de méthode scientifique? Je vais poursuivre justement avec méthode mon fil conducteur autour de cette notion de dialogue qui me semble intéressante pour éclairer les différentes facettes de votre parcours professionnel et intellectuel. Ce dialogue, on le retrouve aussi dans certains de vos livres. Vous dialoguez finalement les livres que vous avez écrits, notamment sur Einstein ou Mayonara, sont aussi d'une certaine façon une forme de dialogue impossible avec ces grands scientifiques. Est-ce que c'est une fausse piste?
Oui, alors d'abord, les pères fondateurs de la physique quantique des génies qui me fascinent, c'est des gens qui dialoguaient beaucoup, qui s'écrivaient beaucoup. Et d'ailleurs, si on n'avait pas leur correspondance, on aurait du mal à comprendre d'où leur sont venues leurs idées. C'est pas en lisant les articles, une fois rédigés et complètement achevés, qu'on comprend la genèse des idées. Pour comprendre la genèse des idées, il faut lire leurs lettres, voir quels sont leurs tourments, quelles sont leurs façons d'interroger le réel. Et parmi ces gens, il y a en effet Majorana, le physicien sicilien qui a disparu en 1938. Et moi, j'ai été tout de suite fasciné par ce personnage, dès que j'ai eu connaissance de son existence, qui s'est faite d'ailleurs au CERN quand j'étais étudiant. Il y avait les rues du CERN, qui est un grand laboratoire aussi grand qu'une petite ville. Toutes les rues portent des noms de physiciens. Donc il y avait la rue Einstein, la rue Démocrite, la rue Rutherford, Dirac, des noms que je connaissais. Puis un jour, je suis tombé sur la rue Ettore Majorana. Il y avait une parenthèse, date de naissance, 1906, un tiret, 1938, point d'interrogation, parenthèse, refermée. Donc le point d'interrogation m'avait interpellé, d'autant plus que je ne connaissais pas ce nom. Il m'a fallu plusieurs jours à questionner des physiciens autour de moi pour savoir qui était ce monsieur. Et j'ai fini par rencontrer un physicien italien qui m'a dit que c'était un physicien surgénial qui avait travaillé avec Enrico Fermi et qui avait disparu et personne ne savait ce qui lui était arrivé. Et quand j'ai fait mon enquête sur Majorana, quand j'ai écrit ce livre, je suis retourné au CERN pour revoir la rue et je voulais la prendre en photo pour mettre le panneau dans le livre et je l'ai pas retrouvé. Donc j'ai questionné des gens de la direction du CERN en leur demandant pourquoi ils avaient débaptisé cette rue. Ils ont fait des recherches et ils m'ont garanti que cette rue n'avait jamais existé. Donc j'avais fabriqué un faux souvenir. Et donc c'est grâce à une rue qui n'a jamais existé que j'ai découvert l'existence d'un homme qui a disparu. Mais en effet, quand on... Dans cette enquête, j'ai rencontré des membres de sa famille, notamment ses neveux. J'ai eu accès à sa correspondance grâce à eux. Il y a des archives à Pise. Et on est dans une sorte de dialogue. Et il faut un effort presque surhumain pour interrompre ce dialogue. Parce que sinon, on devient l'autre, quoi. Sans son génie, ce qui est dommage. Et pour Einstein, par exemple, Einstein, c'est un peu pareil. Einstein, je le fréquente depuis très longtemps. Mais, j'ai dans le livre, à un moment, quand je l'écrivais, je savais pas comment expliquer vraiment bien la relativité. Et sans que ce soit trop pesant, mais que ce soit d'une façon vivante. Et j'avais presque renoncé, en me disant, mais ce qui compte, c'est Einstein, sa biographie, la relativité, les gens pourront la découvrir dans d'autres livres. Et puis, j'ai fait un rêve miraculeux, dont je me suis souvenu, ce qui est encore plus miraculeux. J'ai rêvé un dialogue entre Einstein et Galilée. Donc j'ai rêvé que dans la pièce d'à côté, Einstein, que je reconnaissais par son accent allemand, et Galilée, que je reconnaissais par son accent italien, étaient en train de discuter. Et Einstein expliquait en quoi il avait changé le principe de relativité de Galilée à Galilée lui-même. Bon, je me souvenais pas évidemment de toute la conversation, mais le lendemain matin, j'avais la solution. Et dans la journée, j'ai écrit un dialogue inventé donc, mais c'est beaucoup plus vivant, ça prend 10 pages, et les gens qui l'ont lu m'ont dit qu'ils avaient compris la relativité grâce à ce dialogue. Donc le dialogue, c'est quand même une structure d'argumentation qui est beaucoup plus riche que le monologue. Enfin, Galilée lui-même l'avait bien compris dans ses fameux dialogues, ça permet de donner de la vivacité aux arguments et de faire entendre des contre-arguments qui n'apparaissent pas lorsque une seule personne prend la parole.
sur Majorana et Einstein. Majorana, donc vous avez contribué à le faire redécouvrir, parce qu'à part Fermi qui estimait que c'était un génie au même titre qu'Einstein, c'est vrai que c'est un physicien qui était peu connu ou peu étudié. Vous me disiez que donc de ce dialogue que vous entretenez avec eux, avec leur œuvre, vous disiez: plus le temps passe, plus je les lis et moins je les comprends.
Ben oui, parce que je pense que quand on s'intéresse à la naissance de la physique quantique, hein, qui s'est faite en gros dans les trois premières décennies du XXe siècle, avec des moments très importants qui sont plutôt le milieu des années 20, je pense que quand on pense à cette période, on rétroprojette dans ce passé-là des choses qu'on a apprises depuis et des façons de comprendre qu'on a acquises depuis. Mais si on essaie de se mettre dans cette époque-là, en se débarrassant de tout ce qu'on a appris par la suite, donc on est en 1925 ou 1927, on est à l'hôtel Métropole de Bruxelles, où avaient eu lieu les congrès Solvay, où une vingtaine de ces gens se rencontraient grâce aux subventions d'un industriel belge qui s'appelait Ernest Solvay, qui avait compris que la physique était en grande révolution et a voulu aider les physiciens à se rencontrer. Eh bien, je prétends, moi, que c'est... En tout cas, je n'y arrive pas à comprendre comment, en si peu d'années, si peu de personnes ont pu élaborer un nouveau formalisme avec de nouveaux concepts qui n'ont aucune contrepartie dans la vie courante. Autrement dit, les concepts qu'ils ont mis sur pied n'étaient pas dérivés de l'observation ou n'étaient pas dérivés de notions empiriques. Et ça, c'est quelque chose de fascinant en général. C'est-à-dire que la physique moderne, qui commence avec Galilée, qui se termine, on pourrait dire, avec cet épisode-là, est une physique qui naît sans données. Sans données. On n'a pas de données. Très peu de données. Aujourd'hui, on parle de big data, mais à l'époque, on n'a pas de données. Songez que quand la mécanique quantique se met sur pied, on ne connaît, en termes de particules de matière, que l'électron, le proton, et on connaît le photon, c'est tout. On connaît pas encore le neutron, on l'a pas découvert. On ne sait pas que le proton et le neutron sont des particules composites. On ne connaît comme interaction que la gravitation et l'électromagnétisme. Les forces nucléaires sont découvertes dans les années 30, donc après la naissance de la mécanique quantique. Donc on n'a rien. On connaît très peu la matière. Mais on fabrique des concepts, des équations, qui... 90 ans plus tard, ont résisté à toutes les découvertes qui se sont produites au XXe siècle. On pourrait dire la même chose d'Einstein. En 1915, il publie sa fameuse théorie de la relativité générale, qui est une théorie révolutionnaire de la gravitation. Mais qu'est-ce qu'on sait sur l'univers en 1915? Mais rien. Pas rien, quasiment rien. On ne sait pas qu'il y a d'autres galaxies que la nôtre. On ne sait pas que l'univers est en expansion. On ne sait pas d'où vient que les étoiles brillent, puisqu'on n'a pas encore les forces nucléaires. On ne connaît en guise d'objets célestes que les étoiles, les planètes, les météores, c'est tout. Un siècle plus tard, on a tout ce qu'on connaît, les trous noirs, les quasars, les ondes gravitationnelles, les pulsars, les autres galaxies, l'expansion, l'accélération de l'expansion, la matière noire, l'énergie noire. Et ce sont les mêmes équations. Ça veut dire que ces gens ont été capables de théoriser bien au-delà des données. Et quand Galilée dit « tous les corps tombent à la même vitesse, quel que soit leur masse », il ne s'appuie pas sur des données. Parce qu'à l'époque, on ne sait pas faire le vide, on doute même de son existence. Et quand on fait tomber des corps de masse différente, on voit qu'ils tombent à des vitesses différentes. Donc les données et l'observation disent le contraire de la loi. Et donc il a pu élaborer une loi qui contredit les données disponibles de l'époque, et c'est la bonne loi. D'où cette idée, et c'est ce qui rend la physique fascinante, que c'est une phrase de Coiré, grand philosophe des sciences, il dit: le pari de la physique moderne, c'est qu'on peut expliquer le réel par l'impossible. Et donc on peut expliquer le réel qu'on observe à partir de lois qui contredisent l'observation. Et ensuite, il faut réinterpréter l'observation pour montrer comment des lois qui la contredisent peuvent quand même l'expliquer. Et c'est ça qui est rigolo, c'est ça qui fait que la physique, c'est quand même quelque chose qui nous oblige à penser, si on prend comme définition du mot, du verbe penser, celle que proposait Alain, qui est dire non. Penser, c'est dire non à quoi ? À sa propre pensée. Voilà. Une pensée qui ne dit jamais non à elle-même, c'est une croyance. Et la physique, elle nous donne beaucoup d'occasions de dire non à notre propre pensée. Et c'est pour ça qu'elle est riche. Et c'est pour ça qu'elle doit être aussi pensée au-delà du cercle des physiciens pour changer la pensée de tout le monde. Sur cette question, au moins.
Vous me confiez quand on a discuté un peu en amont de cet entretien, interroger et là aussi dialoguer, avoir un dialogue intérieur autour de cette notion de génie que vous décrivez hein, chez Einstein, Majorana, chez Schrödinger aussi, chez ces personnes que vous dont vous venez de décrire le travail de la puissance de la pensée formaliste. Qu'est-ce que c'est qu'un génie pour vous, Étienne Klein ?
Bah, un génie, c'est pas quelqu'un qui a une propriété particulière qu'on appelle le génie, que tous ces gens partageraient. C'est-à-dire qu'il y a autant de formes de génie qu'il y a de génie incarné. Le génie d'Einstein, c'est pas du tout le même génie que Majorana. Majorana, c'est une espèce de génie fulgurant qui est capable de calculer à une vitesse incroyable, qui n'a pas de moment fort dans sa pensée, c'est-à-dire qu'il est tout le temps en train d'être productif au même rythme, alors que Einstein, c'est quelqu'un d'assez lent, mais qui pense tout le temps. Einstein disait d'ailleurs, je travaille lentement, mais je travaille tout le temps, quoi. Il disait aussi, je dors peu, mais je dors vite, ce qui est une phrase assez marrante. Mais ce qui me fascine, c'est d'abord le génie lui-même, parce que on dit souvent il y a des effets de contexte, les idées sont dans l'air du temps. Et non, je pense que évidemment Einstein, comme tous les autres, a été influencé par le contexte dans lequel il travaillait. Il était au bureau des brevets en 1905 et le type de brevet qu'il examinait l'a sans doute conduit à la relativité puisque c'était des brevets qui portaient sur l'électromagnétisme, qui était justement la théorie qu'il interrogeait. Bon. Donc le contexte a joué, mais une autre personne mise dans le même contexte n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Maintenant, ce qui est fascinant, c'est de poser la question de savoir si il y a une relation, directe ou indirecte, entre les inventions de ces génies et leur propre vie. Ou de poser la question de savoir s'il y a une ressemblance entre leur caractère et puis leur théorie. Et il se trouve que, moi il y en a 7 que j'ai regardé, hein. Ça m'a inspiré un livre qui s'appelle « Il était 7 fois la révolution », 7 pères fondateurs de la physique quantique. Et dans certains cas, on trouve des choses assez étonnantes. Par exemple, Schrödinger. Schrödinger a écrit l'équation de Schrödinger et il est l'inventeur du chat de Schrödinger, le chat éponyme, qui est la superposition d'un chat quantique et d'un chat vivant. C'est une des conséquences de la physique quantique telle qu'elle était comprise à l'époque. Et cette idée, il la détestait. Et donc il pensait comme Einstein que la physique quantique était incomplète, il lui manquait des choses, parce que dans l'état où elle était, elle permettait d'envisager des situations impensables. Un chat qui est la somme d'un chat vivant et d'un chat mort, ça veut dire quoi ? Ça veut rien dire. Les chats qu'on voit sont vivants ou morts, donc la mécanique quantique permet d'envisager des situations impossibles, et donc il y a quelque chose en elle qui est faux. Mais si on regarde maintenant la propre biographie de Schrödinger, c'était un homme complètement superposé. C'est-à-dire, il était autrichien, mais il pensait en allemand, il écrivait en anglais. Il aimait plusieurs femmes à la fois. Donc son état amoureux était complètement superposé. Il tenait un journal qui s'appelait Les Éphémérides, où il racontait toutes ses histoires amoureuses qui étaient d'une complexité incroyable. Et en fait, il était profondément ambivalent. Et son refus du chat de Schrödinger, c'est une haine de soi. C'est-à-dire, le chat de Schrödinger, c'est lui. Je ne veux pas aller trop loin là-dedans, mais c'est quand même une hypothèse qu'on doit travailler. Quant à Einstein, la théorie de la relativité générale, c'est une théorie très compliquée mathématiquement, mais du point de vue physique, elle s'appuie sur un principe très simple qui s'appelle l'invariance par difféomorphisme. Bon, c'est un peu compliqué pour dire simplement que, d'après lui, ce qui compte, c'est pas la façon dont on repère les événements dans l'espace-temps par des coordonnées. Ce qui compte, ce sont les événements eux-mêmes. Et donc la façon de les décrire, les coordonnées ou les référentiels qu'on utilise pour décrire ces événements n'ont aucune importance. Eh bien, en fait, c'était l'objet de mon enquête, quand je suis allé dans les villes où il a travaillé à vélo, c'était de voir en quoi les villes ou les contextes dans lesquels il était ont influencé sa propre pensée. Et la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que Einstein était agéographique. C'est-à-dire que ce qui se passait dans son esprit était complètement indépendant de l'endroit où se trouvait son encéphale. Il était invariant par déplacement. Pour ça, dire qu'il a assez bien, supporté l'exil. Et quand il raconte dans son autobiographie comment lui sont venues ses idées, vous lisez ce livre, à aucun moment il ne dit où il était. Il raconte le fil de ses raisonnements, la logique de ses questionnements, mais il ne dit pas telle idée je l'ai eue à Zurich, telle autre je l'ai eue à Prague, ça compte pas. Et donc il y a quelque chose dans sa façon de penser qui fait écho à l'invariance par diffeomorphisme qui fonde sa théorie.
Et est-ce que vous pensez qu'il est encore possible, puisqu'on fait référence beaucoup depuis le début de cet entretien à ce basculement paradigmatique qui est le dernier grand basculement formaliste de l'histoire de la physique finalement. Est-ce que vous pensez que ce type de révolution théorique paradigmatique peut encore avoir lieu en physique, ou est-ce que les modèles qui ont été établis sont aujourd'hui les modèles définitifs, robustes, qui n'évolueront plus? Quel est votre instinct là-dessus, Étienne?
Le problème, c'est qu'on a une physique qui est schizophrénique. Il y a deux théories, la relativité générale pour la gravitation, la physique quantique pour les trois autres interactions fondamentales. Ces deux théories n'utilisent pas le même espace-temps. Celui de la relativité générale, il est souple, dynamique, il est déformé par ce qu'il contient. Celui de la physique quantique, il est statique et rigide. Bon. On n'imagine pas que l'univers puisse avoir deux espaces-temps différents. Donc on se dit, il doit y avoir un niveau où on puisse unifier ces deux cadres formels dans une théorie qui permette de décrire en même temps les quatre forces. Depuis très longtemps, on cherche. Théorie des cordes, etc. Il faut trouver mais la physique, ça reste une science expérimentale. Et donc, il faut arriver à trouver des données qui permettent de départager tous les candidats possibles. Et ça, on n'a pas pour l'instant. Maintenant, pour répondre plus précisément à votre question, je ne crois pas que, pour qu'un génie se manifeste, il faut une crise. Il faut une crise, et Einstein, il est arrivé à un moment où il y avait quand même une crise en physique. Et il avait un mode de questionnement très particulier. Et je ne suis pas sûr que quelqu'un qui aurait aujourd'hui le même mode de questionnement puisse aider à résoudre les problèmes dont on parle. Mais ce qui est fascinant avec Einstein, c'est que, il le dit lui-même d'ailleurs, un an avant sa mort, il a dit à l'un de ses biographes, j'ai trouvé la relativité, le premier, grâce à mon retard mental. C'est-à-dire que il avait conscience que il posait des questions d'enfant et son retard mental lui a permis de les résoudre avec un cerveau d'adulte. Mais ce qui est vraiment fascinant dans le génie d'Einstein, c'est justement la naïveté de ses questions. Quand il a 15 ans, il se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passerait si de la lumière émettait de la lumière. Quand un enfant pose cette question, on lui demande d'aller jouer. C'est quoi cette question? Et lui, il répond, la lumière va à la vitesse de la lumière. Si la lumière émet de la lumière, c'est-à-dire que la lumière émise, va à la vitesse de la lumière par rapport à sa source, qui elle-même va à la vitesse de la lumière. Donc ça fait deux fois la vitesse de la lumière. Mais si la lumière émise émet à son tour de la lumière, ça fait trois fois la vitesse de la lumière pour la lumière émise par la lumière émise, etc. etc. Donc on fabrique un escalier cinématique vers l'infini. Il y a 15 ans. Et un peu plus tard, un an plus tard, il se pose la question, qu'est-ce que je verrais si j'étais à cheval sur un rayon lumineux, etc. Et il ne lâche jamais ce type de questionnement. Et 10 ans plus tard, il va écrire cette théorie de la relativité restreinte et il va répondre aux deux questions. Quelle serait la vitesse de la lumière émise par de la lumière? Réponse, la vitesse de la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière bat toujours à la vitesse de la lumière, quelle que soit la vitesse de sa source. Qu'est-ce que je verrais si j'étais à cheval sur un rayon lumineux? C'est pas la peine de poser la question, parce que la lumière bat toujours à la vitesse de la lumière. Donc on ne peut pas être immobile par rapport à elle. Et ce qui est quand même fascinant, c'est que voilà, il a posé des questions simples mais il n'a jamais lâché le fil. C'est-à-dire, il a toujours intégré les réponses à ses questions pour aboutir à de nouvelles questions, et etc., etc., sans jamais laisser d'ombre. Et si les conséquences auxquelles il arrivait étaient révolutionnaires, il assumait. Et ça, c'est quand même sa grande force, qui parfois va le tromper, par exemple sur la mécanique quantique. Dans les années 30, avec deux collègues, il écrit un article en disant si la physique quantique est vraie et complète, alors elle autorise des situations inacceptables, impossibles. C'est lui qui l'a vu. On le présente toujours comme quelqu'un qui a refusé la physique quantique, mais non, il a vu que si elle était complète et vraie, alors elle aboutissait à des situations impossibles à admettre. Par exemple, deux particules qui ont interagi dans le passé restent très fortement corrélées, quelle que soit la distance qui les sépare, ce qu'on appelle la non-séparabilité. Ça, il l'a refusé, en disant c'est pas possible. Et comme c'est pas possible, ça veut dire que la physique quantique qui dit que c'est possible doit être retravaillée. Mais la suite de l'histoire, et la suite n'a été connue qu'après sa mort, a dit que là-dessus il s'est trompé. Mais c'est lui qui, par une expérience de pensée, en imaginant une certaine situation, a pu voir les implications de la physique quantique que n'avaient pas vu les autres qui y croyaient fermement.
Puisqu'on arrive doucement vers la fin de cet entretien, j'aimerais vous poser une question à laquelle, qui n'appelle pas une réponse, mais qui appelle une question. Dans ces dialogues intérieurs ou extérieurs que vous avez pu entretenir avec Einstein ou avec Majorana, j'imagine que vous vous êtes déjà demandé si il vous était donné de poser une question à l'un des deux. Laquelle serait-elle ? Une seule.
Alors, je vais choisir Einstein parce que Majorana, je l'ai beaucoup fréquenté, mais il n'a pas vécu très longtemps et il a eu un passage discret. Donc, par exemple, s'il entrait dans la pièce, là, je pense qu'il raserait les murs, je serais capable de le reconnaître, mais je ne sais pas du tout dire comment il se comporterait vis-à-vis d'un public, est-ce qu'il accepterait de nous parler, sur quel ton il nous parlerait. Je suis incapable de l'imaginer. Alors qu'Einstein, on connaît sa voix, il y a des films, on connaît son caractère, il a une correspondance d'une richesse stupéfiante. Il y a des jours où Einstein écrivait 20 lettres, des longues lettres. On les a, donc on a l'impression qu'on peut connaître la psychologie et la personnalité d'Einstein. Mais s'il revenait, évidemment, je lui poserai la question suivante. Les ondes gravitationnelles ont été détectées. Il les a prédites en 1916, mais il a toujours pensé qu'elles existaient, même s'il y a eu des moments d'hésitation. Mais il a pensé aussi qu'on ne pourrait jamais les détecter. Donc qu'est-ce qu'il pense du fait qu'on les a détectées ? Bon, premièrement. Deuxièmement, les ondes qu'on a détectées ont été produites par une fusion de deux trous noirs, qui n'ont fait plus qu'un seul, et puis il y a plusieurs masses solaires qui ont disparu dans l'opération, qui sont transformés en énergie par E égale MC2. Donc c'est un phénomène très violent. Or, Einstein ne croyait pas au trou noir. Or, la détection des ondes qui a été faite, il croyait qu'on ne pourrait pas la faire, cette détection. Et cette détection a prouvé non seulement que les trous noirs auxquels il ne croyait pas existent, mais qu'en plus, ils sont capables de fusionner. Albert, assieds-toi et dis-nous ce que t'en penses. Voilà. Mais en fait, en réfléchissant un peu mieux à votre question, c'est pas si j'avais qu'une question, c'est pas celle-là que j'aurais posée, c'est celle dont tout le monde parlait en 1980, quand Alain Aspect et d'autres à l'Institut d'Optique à Paris ont montré que sur la physique quantique, les prédictions d'Einstein étaient fausses, que la non-séparabilité, ça existe vraiment. Et donc, on montre ça à Einstein, qu'est-ce qu'il fait ? Comment il réagit ? Il a tombé de sa chaise.
Eh bien, ce sera tout. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus. Merci, Étienne.
C'était la masterclass d'Étienne Klein avec Nicolas Martin. Coordination Arnaud Laporte, attaché de production Chouchane Guergaillant.